France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les camping-caristes à la caisse, le stationnement payant se développe pour ce mode de tourisme très prisé des Français. Les aires d'accueil sont de plus en plus gérées par des groupes privés. Illustration et explication dans un instant. À suivre encore les attaques anti-prison en France. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
21 suspects présentés à des juges aujourd'hui.
Oui, 21 personnes dont le créateur présumé de la chaîne Telegram qui avait lancé des appels à s'en prendre aux gardiens de prison. Tous déférés durant la journée devant les magistrats de la Junalco, la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé. Le parquet national antiterroriste s'est dessaisi. Aucune idéologie radicale violente, pas d'ingérence étrangère.
Vous nous en direz plus dans quelques minutes. Nous parlerons également du coup de frein pour le groupe LVMH, plus de 1000 suppressions de postes, du succès du traitement Befortus contre la bronchiolite des bébés, de l'impopularité record du Premier ministre François Bayrou et de cet étrange meurtre d'une retraitée britannique dans une petite commune du Périgord. À partir de 13h30, les cantines scolaires. Alors, est-ce que c'est bon ?
Bah, je mange pas beaucoup parce que c'est pas bon. Bah, la purée, déjà, elle est mou. Même, c'est presque jamais bon.
Guillaume Le Cantinier et Marie-Pierre Membrive, mère d'élèves engagés, vont confronter leurs points de vue et leurs idées. J'attends les vôtres. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Pourquoi l'ex numéro 1 mondial du tennis, Naomi Osaka, se retrouve-t-elle à Saint-Malo cette semaine? Ce sera avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste Sophie Forte, Brigitte Bardot et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Comme les champignons après l'averse, les camping-cars poussent sur nos routes avec le beau temps. Et c'est le cas en ce moment. Ce qui pose par endroits des problèmes de stationnement. Les vacanciers ont du mal à trouver des places ou surchargent les parkings. Alors les communes sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers les aires privées. On en compte près de 2000 dans notre pays. Ainsi en Bretagne, leur fréquentation a bondi de 30% l'an dernier. Et à Pont-l'Abbé, dans le sud Finistère, la ville a confié la gestion de sa nouvelle aire à une entreprise. Laura Bléré s'est rendue sur place.
Pour Ghislaine et Christian, c'est un goût de liberté. Les deux retraités sont des habitués du camping-car.
Ça fait bien 15 ans. Hein.
Mais pas toujours facile de se trouver une bonne place. Eux n'ont qu'une hâte que la nouvelle aire privée ouvre à Pont-l'Abbé.
Il y a l'électricité, il y a l'eau, tout, et puis on est beaucoup plus en sécurité.
Pratique ces aires et facile à repérer. Stéphane, un autre camping-cariste, n'a qu'à sortir son portable.
Avec toutes les applications maintenant sur les téléphones, c'est vrai que c'est facile à trouver. Là, on arrive de l'Octudil, on est sur Camping-Car Park là-bas. Très bien, même pas 50 mètres de la mer.
À Pont-l'Abbé, la nouvelle aire pourra accueillir 30 vacanciers par jour dans une ville où stationnent déjà 1400 camping-cars sur l'année, estime Stéphane Le Doiré, le maire. La ville a dépensé 450 000 euros dans le projet.
Il faut estimer qu'en 10 ans, on aura amorti notre investissement et surtout, on aura permis à ce type de touristes de se développer. On sait que les camping-caristes sont des bons consommateurs dans le commerce local et dans les restaurants.
Un service que Stéphane Le Doiré a préféré déléguer à une entreprise privé.
Ils ont un vrai savoir-faire que nous n'avons pas. Ça aurait été plus compliqué pour une ville de proposer la même qualité de service.
Mais qui a un coût pour les camping-caristes, presque 14 euros la journée. D'autant qu'il ne sera plus possible de stationner gratuitement sur les parkings.
Reportage ici, Braise-Izel. Et ce phénomène de privatisation des aires est observé partout en France, constate Bruno Garancher, président de la Fédération française du camping-caravanning et camping-car.
En France, il y a à peu près 6000 aires de stationnement. Et il y en a 1500 à 2000 qui sont sous statut privé. C'est effectivement quelque chose qu'on ressent depuis un certain nombre d'années. Allez, une petite dizaine d'années et une nette accélération depuis 3-4 ans. À la fois d'ailleurs au niveau des aires de camping-car, mais aussi au niveau des campings municipaux. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est qu'effectivement, on est censé avoir des aires qui sont un peu mieux équipées et qui fournissent des prestations de meilleure qualité. Ça a un impact négatif, c'est que ça a un impact direct sur les prix de stationnement. Une aire municipale avec simplement un accès à l'eau, etc., c'est de l'ordre de 5, 6, 8 euros. une aire privée, on va tout de suite être aux alentours d'une quinzaine d'euros.
Bruno Garancher au téléphone d'Estelle Romer. L'enchaînement des week-ends de pont favorable donc au tourisme en ce mois de mai. La conjoncture est nettement moins positive. En revanche, pour deux grandes entreprises dont nous allons parler maintenant, le géant français des vins et spiritueux LVMH et l'américain Apple. Maxime Debs, Mathieu Bonnour du service éco nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Mathieu, LVMH annonce la suppression de 1200 postes dans sa filiale vins et spiritueux car les ventes sont en baisse.
Exactement Jérôme, les chiffres de la filière sont en berne après une période dorée où les records s'enchaînaient d'année en année pour la filière Moët Hennessy de LVMH. Fini l'embellie, l'année dernière cela représente une baisse de 11% du chiffre d'affaires et encore une baisse supplémentaire de 9% au premier trimestre de cette année. Derrière ces résultats, il y a la baisse de la consommation de champagne et de cognac, mais aussi les mesures de rétorsion de la Chine, premier marché de ce spiritueux de Charente, notamment des taxes douanières provisoires de près de 40% depuis plusieurs mois. Dans cette période compliquée, l'entreprise tente de réagir. L'ancien directeur financier de LVMH a été nommé PDG de la filière Moët Hennessy récemment. Pour le moment, du côté des syndicats, on accuse le coup et on tente de savoir dans quel service précisément est-ce que ces réductions d'effectifs vont s'appliquer. LVMH précise que ces 1200 postes sont des départs à la retraite non remplacés ou d'autres postes qui resteront vacants.
Alors, on a parlé des droits de douane pour LVMH. Là, c'est la conséquence directe de la décision de Donald Trump de surtaxer les produits made in China. Apple estime que la majorité des iPhones qui vont être vendus aux États-Unis d'ici fin juin auront été fabriqués en Inde. Est-ce que ça veut dire, Maxime Debs, qu'Apple est en train de déménager ses usines de la Chine vers l'Inde ?
En tout cas, par un phénomène presque de tectonique des plaques, lorsque la Terre s'adapte au gré des événements géologiques, et bien là, c'est pareil, Apple s'adapte à la géopolitique de Donald Trump. La majorité des iPhones à destination du marché américain dans les prochains mois seront donc fabriqués en Inde, vous l'avez dit. Le Vietnam, lui, s'occupera de produire une plus grosse partie des iPads et des Apple Watch, manière d'éviter les taxes sur les produits chinois annoncées à 145%. Même si ça pourrait encore bouger, que les négociations sont en cours, il s'agit surtout pour Apple de se prémunir d'un entêtement de Trump sur ces questions douanières qui pourraient coûter à la marque à la pomme la bagatelle de 900 millions de dollars. On comprend assez facilement les enjeux, l'urgence de parer à toutes les situations pour Apple. Selon un journal indien, le géant américain aurait même fait décoller en avril tout spécialement 5 avions avec à son bord des iPhones et d'autres produits de la marque qui, même si elle promet de relocaliser une partie de ses activités aux États-Unis, eh bien, ne s'interdit rien pour limiter l'impact de ces tarifs douaniers.
Merci à tous les deux, Maxime Debs et Mathieu Bonnour. Et puis on a appris en fin de matinée que l'Union européenne infligeait une très lourde amende à la puissante plateforme chinoise TikTok. 1,5 milliard d'euros. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Pour avoir hébergé les données des utilisateurs européens en Chine, et c'est interdit.
Oui, et la règle est assez simple. Les données européennes ne peuvent être transférées ou stockées en dehors de l'Union, sauf dans des pays jugés sûrs, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, ou bien si le niveau de protection est équivalent à celui imposé à l'intérieur de nos frontières par le RGPD, fameux règlement sur les données personnelles. C'est ce que n'a pas réussi à prouver TikTok auprès de la CNIL irlandaise qui agit au nom des 27. En plus de n'avoir pas dit clairement que des données pouvaient être hébergées en Chine, TikTok n'a donc pas pu donner assez de garanties sur leur sécurité ni sur un potentiel accès des autorités chinoises. C'est une mauvaise nouvelle pour le groupe ByteDance, souvent soupçonné, même accusé d'espionnage et sous pression aux États-Unis, contraint par une décision du Congrès de céder son application dans le pays sous peine d'interdiction, même si la procédure a été reportée à deux reprises par Donald Trump. La plateforme affirme n'avoir jamais reçu de demande ou fourni de données d'utilisateurs européens à la Chine. Elle met en avant ses 12 milliards d'euros d'investissement dans des data centers en Europe pour stocker nos données et annonce qu'elle va faire appel.
Précision signée Xavier Demani. Sans ce traitement, nos hôpitaux déjà saturés cet hiver auraient dû accueillir encore plus de malades. C'est dire son importance. Le Befortus, qui permet d'immuniser les bébés contre la bronchiolite. Une vaste étude publiée aujourd'hui confirme sa très grande efficacité. Bonjour Christelle Gras-Leguen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service pédiatrie du CHU de Nantes. Vous êtes également la porte-parole de la Société française de pédiatrie. Vous avez pu vous-même constater l'efficacité de ce traitement ?
Alors en effet, c'est ça qui fait toute la valeur de ce travail publié aujourd'hui, c'est qu'il corrobore parfaitement à l'impression que nous, on a pu avoir sur le terrain durant les deux dernières épidémies.
C'est-à-dire un traitement très efficace.
Une efficacité spectaculaire, avec une diminution du nombre des patients, du nombre des formes graves, qui a complètement révolutionné les deux hivers qui viennent de s'écouler, avec des files d'attente qui étaient beaucoup moins embouteillées que d'habitude et un nombre de patients qui était très inférieur à ce qu'on avait l'habitude de prendre en charge.
Ce traitement a évité un engorgement général de notre système de santé cet hiver, on peut le dire ?
Alors, on peut le dire, ce d'autant que la précédente épidémie 2022 avait été particulièrement intense et avait complètement saturé notre système de soins. C'est ce qui avait donné l'époque l'initiative de lancer les Assises de la santé de l'enfant, tant l'alerte était sérieuse et que le système de soins était incapable de faire face à cette épidémie. Et donc, les deux hivers qui ont suivi ont été radicalement différents de ce point de vue.
Comment ça fonctionne, Christelle Gras-Le-Gouen ? Vous proposez ce traitement aux nouveaux parents dès la maternité ?
Alors, en effet, je pense que c'est un point particulièrement important, c'est que ce médicament, il est efficace en fonction de la façon dont on l'utilise. Et que l'idée, c'est de prévenir le plus vite possible, puisque ce sont les tout-petits, dans les premiers jours de vie, qui font les formes très graves. Et donc, il faut l'utiliser, en effet, dès la maternité, pour que les bébés soient protégés dès qu'ils sortent de la maternité.
Donc, vous allez voir les parents avant que leur enfant ne sorte de la maternité. Et les réponses sont souvent positives. On parle de la défiance des Français vis-à-vis des vaccins. Alors là, c'est pas un vaccin, c'est un traitement, mais il n'y a pas de défiance.
Alors, en effet, ça a été une surprise très agréable que de constater que les jeunes parents français nous ont fait confiance, et ce, dès le premier hiver, puisqu'on a plus de 80% d'adhésion à ce nouveau produit, même chez des enfants très petits, tant le poids de la maladie est important, et dans l'esprit de tous les parents, en effet, la bronchiolite, si on peut l'éviter, c'est important.
Ça fonctionne pour la bronchiolite. Est-ce que ça prévient d'autres pathologies ?
Alors, la bronchiolite, c'est un espèce d'état d'infection due à un virus, mais qui peut aussi faire le lit d'infections autres. Je pense à des pneumonies, à des otites, à des méningites même parfois, et pouvoir prévenir la bronchiolite à VRS, puisque c'est le virus qui est en cause, c'est aussi une façon efficace de prévenir les surinfections et puis l'utilisation très large des antibiotiques. Et donc, ça n'a que des vertus.
Combien ça coûte, Christelle Gras-Le-Gouen ? Je suis parent, est-ce que je dois payer une partie ? Est-ce que je paye tout ? Est-ce que j'avance et je suis remboursée ?
Alors ça, c'est un point tout à fait essentiel. Ce produit coûte cher, puisqu'il vaut 400 euros, et que suite aux discussions...
C'est 400 euros par enfant, c'est ça que ça coûte ?
400 euros par enfant, ouais. Exactement. C'est une injection à 400 euros. Et que suite aux discussions qui ont eu lieu avec la commission de transparence de l'HAS, il a été décidé d'un remboursement à hauteur de 30% seulement. Et donc, il est évident que certaines mutuelles prennent en charge le complément, d'autres pas, et que ce produit doit pouvoir continuer à être distribué en maternité sans que les parents aient besoin de l'avancer si on veut en effet éviter un système à deux vitesses et aussi encore une fois la nécessité de protéger le plus vite possible les tout petits.
Donc vous demandez prise en charge à 100%?
Alors, la prise en charge en 100%, c'est pas tant ça qui est important que l'enfant puisse en bénéficier dès la maternité. Alors, ouais. Il se trouve qu'effectivement, ça sera pris en charge à la maternité, mais c'est vraiment l'âge de l'enfant qui nous importe. Et en effet, pour le reste, il faut qu'on reprenne les discussions avec la HAS pour pouvoir, à la lumière de ces nouveaux travaux, je l'espère, faire bouger le remboursement.
HAS, la Haute Autorité de Santé. Merci Christelle Gras-Le-Gouen d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, chef du service pédiatrie au CHU de Nantes et porte-parole de la Société française de pédiatrie.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
5 mois après la chute du dictateur Bachar al-Assad, la Syrie est-elle en train de retomber dans la guerre civile ? Ces derniers jours, les affrontements entre des groupes liés au nouveau pouvoir islamiste et la communauté druze, ces affrontements ont fait plus de 100 morts. Les druzes dénoncent un génocide et les Israéliens, voisins de la Syrie, qui se font fort de protéger les druzes, ont bombardé la nuit dernière la capitale Damas. Bonjour Noé Pignède.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer dans un instant qui sont ces druzes. D'abord, prenons la direction de Jérusalem pour vous retrouver, Thibault Lefèvre. Bonjour Thibault.
Bonjour Jérôme.
Vous y êtes notre correspondant. Thibault, pourquoi les Israéliens se mêlent-ils de cette affaire ?
Eh bien, je vous propose d'écouter le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'est lui qui en parle le mieux et il s'exprimait il y a un peu plus de deux mois devant des officiers.
On ne doit pas laisser l'organisation HTS actuellement au pouvoir ou la nouvelle armée syrienne entrer dans la zone au sud de Damas. Nous demandons la démilitarisation totale du sud de la Syrie et notamment des provinces de Kounetra, Dera et de Souweida et qu'il n'y ait donc plus de force du nouveau régime.
Souweida, c'est notamment là où des druzes, des milices sunnites et les forces gouvernementales s'affrontent depuis le début de la semaine. Et c'est là que l'État hébreu a frappé pour la première fois mercredi pour défendre, disent ses dirigeants, les druzes syriens. Un bombardement préventif comme celui d'hier pour envoyer un message et avertir Damas qu'Israël ira au bout de ses objectifs. Alors d'abord, la démilitarisation donc du sud de la Syrie pour créer, comme à Gaza, une zone tampon et sécuriser les frontières du pays, et puis contrebalancer l'influence grandissante des Turcs qui soutiennent le pouvoir en place en Syrie. Il y a un troisième objectif, Jérôme, et il est d'ordre intérieur. Israël s'adresse à sa propre minorité druze qui vit sur le plateau du Golan, annexé et colonisé depuis plus de 40 ans. En se présentant comme défenseur de tous les druzes, l'État hébreu renforce son emprise sur un territoire qu'il compte bien continuer à occuper.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Noé Pignet, dont on vous retrouve. La Syrie est un pays dans lequel vivent de nombreuses minorités. Les Druzes sont l'une d'entre elles ?
Oui, les Druzes, c'est une petite communauté qui vit à cheval entre le Liban, Israël et la Syrie. En Syrie, ils sont moins de 500 000, soit 3% de la population à peine. Ils vivent majoritairement en banlieue de Damas et au sud du pays. Leur religion trouve ses racines dans l'islam, mais aussi dans des philosophies pré-islamiques venues de la Perse ou de la Grèce antique. Durant les premières années de la révolution syrienne, la plupart des Druzes sont restés un peu à l'écart. Ça a nourri un certain ressentiment chez les rebelles sunnites avec qui ils cohabitaient en banlieue de la capitale. Ces rebelles ont été chassés par Assad en 2018, alors certains djihadistes utilisent aujourd'hui la religion et la vengeance comme prétexte pour revenir s'attaquer aux Druzes. Pourtant, ces dernières années, la petite communauté s'est frontalement opposée à Bachar el-Assad, organisant des manifestations hebdomadaires contre le régime. Les Druzes ont même formé des milices qui ont largement participé à la prise de Damas début décembre, mais ils sont désormais soupçonnés par certains islamistes de vouloir un rapprochement avec Israël. Ils protestent pourtant depuis plusieurs semaines déjà contre les bombardements et l'instrumentalisation de leur communauté par Tel Aviv.
Merci Noé Pignied pour ces précisions. Le Liban voisin, lui, met en garde le Hamas ce matin. Il dénonce l'utilisation par le mouvement islamiste de son territoire pour des actions menaçant, je cite, la sécurité nationale. En France, c'est une nouvelle fois la question de la haine des juifs, de l'antisémitisme qui divise la gauche. Hier, lors de la manifestation parisienne du 1er mai, plusieurs personnes cagoulées avec des drapeaux antifascistes s'en sont prises à des élus socialistes dans le cortège, dont le député socialiste Jérôme Guedj qui a été la cible d'insultes antisémites selon des témoignages. Invité hier soir à réagir à cette agression, la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier a tenu des propos ambigus. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
Et elle s'en est excusée ce matin.
Je présente mes excuses auprès de toutes celles et tous ceux que l'imprécision de ma réponse a pu heurter, écrit la patronne des Verts sur X. En cause, ses propos sur RTL hier soir. À la question « Y a-t-il un antisémitisme d'extrême gauche ?», la patronne des Verts se dit « embêtée » avant d'accuser Jérôme Guedj de manifester avec 20 journalistes à ses côtés, comme si le député de l'Essonne était un peu responsable des attaques qu'il subit. Bronca sur les réseaux sociaux, de la gauche à l'extrême droite, ces agressions ne sont pas des mises en scène, mais des faits graves et révoltants, s'indigne le patron des députés socialistes Boris Vallaud. L'antisémitisme de Marine Tondelier éclate au grand jour, lance le RN Bruno Bild. Le principal intéressé, Jérôme Guedj, parle lui de propos gravissimes d'une faute morale. Marine Tondelier rétropédale donc ce matin et tient à être claire. Existe-t-il un antisémitisme d'extrême gauche ? La réponse est oui, écrit-elle, avant d'ajouter, comme dans l'ensemble de la société, une façon de se différencier du patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui avait parlé d'antisémitisme résiduel en France.
Lise Rosweil pour ses explications. 54 personnes sont toujours en garde à vue à Paris au lendemain de ces violences du 1er mai, précise le parquet. Une seule pour celle commise aux abords du stand du Parti Socialiste. Le Premier ministre François Bayrou, lui, n'en finit pas de plonger dans les enquêtes d'opinion. Sa cote de confiance est en baisse, nous disent deux sondages publiés ces derniers jours. L'un par le journal Le Figaro, l'autre par les Échos. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Ce qui fait donc de François Bayrou le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République.
Oui, plus impopulaire encore qu'Edith Cresson, Jean-Marc Ayrault ou Alain Juppé dans leur pire semaine à Matignon. L'Institut Elab donne 17% de Français satisfaits, 14% pour l'Institut Verian. François Bayrou ne cesse de baisser depuis l'adoption du budget. À peine la moitié des sympathisants du parti présidentiel lui font confiance. Oui, la moitié. Pourquoi ? Parce qu'il symbolise à lui seul l'impuissance des politiques, ce pouvoir qui s'effiloche, qui n'a plus de prise sur le réel. Il paye bien sûr la dissolution, mais Michel Barnier n'avait lui jamais perdu son socle de droite. Les Français ne l'associent à aucune bonne décision. La loi narcotrafic, par exemple, qui vient d'être adoptée, est liée à Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Dans son gouvernement, personne n'est là pour le défendre et il ne reçoit que très peu ses ministres en tête à tête. Ces sondages ne m'étonnent pas, glisse d'ailleurs l'un d'eux, il ne fait aucun effort. L'affaire Betarame pèse lourd aussi, sa défense très floue, sa fille qui entretient les doutes, bientôt son audition au Parlement, ce sont les seuls moments où il fait la une. Il n'a d'ailleurs toujours pas de directeur de la communication, il essaie de gérer lui-même une partie de la presse et pour éviter la censure, il ouvre des chantiers. Les retraites, la proportionnelle, le budget 2026, va-t-il les refermer ? C'est ce qui fait douter les Français. En tout cas, il n'a pas attendu 6 mois pour planter son arbre dans les jardins de Matignon, un chêne des Pyrénées qui lui peut tenir 5 siècles.
Cela peut-il avoir un impact non pas sur la durée de vie du chêne, mais sur la durée de vie de François Bayrou à Matignon ?
Pas directement, car cette impopularité ne gêne pas Emmanuel Macron, qui même en profite en miroir. Ça rend tout de même la censure très populaire, donc encore un peu plus probable cet automne.
Merci Maxence Lambrecq. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui recevra lundi la famille d'Aboubacar Cissé, ce jeune Malien poignardé vendredi dernier dans une mosquée du Gard et dont le meurtrier présumé s'est rendu à la police en Italie. Cela faisait plusieurs jours que la famille d'Aboubacar Cissé demandait à être reçue par le ministre. Plusieurs jours maintenant également qu'aucune action anti-prison n'a été recensée en France. Le mouvement semble s'être éteint au moment où 21 suspects sont donc présentés aujourd'hui à des juges d'instruction. Ils appartiennent tous à des réseaux de trafic de drogue. Emmanuel Leclerc, on vous retrouve. Présentation en vue de leur probable mise en examen.
Oui, et parmi ces 21 personnes déférées depuis ce matin devant les juges d'instruction en charge de cette affaire, il y a ceux qui sont soupçonnés d'avoir affalé à la Kalachnikov à Toulon devant le centre pénitentiaire et abandonné leur voiture à Marseille. Ceux qui sont allés en scooter sur le parking de la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis avec leur bidon d'essence, tous avaient laissé leur paluche, comme disent les enquêteurs, des empreintes digitales ou même de l'ADN. Et puis, il y a celui qui serait le créateur de la chaîne Telegram qui a servi à lancer des appels, à s'en prendre aux prisons et aux voitures des surveillants, celui qui aurait fait circuler les premières revendications au nom d'un groupuscule DDPF qui pouvait faire penser aux méthodes clandestines de l'ultra-gauche. Un homme qui était en détention lorsqu'il a créé cette chaîne Telegram, qui a donc été extrait de sa cellule lundi dernier, cellule à Avignon, au Pontet. Il était alors en attente d'un procès lié à un trafic de drogue attribué à la mouvance de la DZ Mafia. Et c'est à partir de son identification que les enquêteurs ont pu remonter à certains commanditaires présumés et ensuite à ceux qui ont activé les petites mains, les exécutants de cette opération DDPF.
Et les juges ont finalement décidé de ne pas retenir le caractère terroriste ces actions. Et ça faisait débat.
Absolument. Selon le procureur national antiterroriste, les investigations ont permis d'inscrire résolument ces actions dans la très grande criminalité organisée et ne procèdent pas d'une entreprise terroriste qu'il y a derrière. Aucune idéologie radicale violente, aucune ingérence étrangère.
Merci Emmanuel Leclerc. Je vous parlais du meurtre d'Aboubacar Cissé. La procureure de la République de Nîmes va tenir une conférence de presse sur ce meurtre. Ce sera ce soir à partir de 19h. À Fontaine, près de Grenoble, une fusillade a fait 4 blessés hier soir près d'un point de deal. 2 hommes ont été gravement blessés, transportés à l'hôpital. Le week-end dernier, 4 fusillades avaient eu lieu en moins de 24 heures dans l'agglomération grenobloise. Dans le sud de la Dordogne, la commune touristique de Trémola s'interroge. Qui a tué Karen mardi soir ? Karen, cette retraitée britannique de 69 ans qui a été poignardée devant sa maison dans un hameau à 3 km du bourg de cette commune de 600 habitants. Alors son nouveau compagnon, qui l'a retrouvé inanimé mardi soir a été placé en garde à vue avant d'être relâché. Une femme de son entourage est désormais interrogée par les enquêteurs. Et sur place, Marie-Astrid Guégan, la violence du crime a marqué les esprits.
Tout le monde à Trémola connaissait Karen, cette brune toujours souriante qui vivait dans l'un de ces deux gîtes. Deux belles maisons en pierre avec leur piscine, le gazon bien tondu, la glycine à l'entrée. Ramona l'aidait à faire le ménage.
Mais en fait, c'était pas quelqu'un qui est propriétaire et qui laisse les autres faire. Non, elle était là. Vraiment, elle était charmante. J'ai des souvenirs où elle mettait la musique, on travaillait en musique. Et si elle était une méchante personne, ce serait dit, c'est bien fait pour elle. Mais là, une gentille personne qui en plus venait fêter ses 65 ans.
Karen était discrète, mais présente à tous les événements du Café Village, le seul bar de la commune, là où tous les habitants se retrouvent pour boire le thé, tricoter, jouer à la belote, avec de nombreux expatriés, comme cette Anglaise.
Elle organisait les barbecues l'été au Café Village. C'était une femme très connue et très appréciée à Trémola.
Ses voisins ne conçoivent pas que quelqu'un a tué Karen de 8 coups de couteau, alors qu'elle était en train de sortir son petit chien de sa voiture, un bébé griffon blanc qu'elle venait d'adopter. Tous se demande ce qu'il a vu.
On ne sait pas si c'est le serial killer, si c'est le vol qui a mal tourné. Enfin, on imagine tout et n'importe quoi et on n'ose rien imaginer parce que c'est tellement grave.
Ceux qui connaissaient encore mieux Karen, ses amis, ne veulent pas parler du tout. Les gendarmes leur ont demandé de ne rien dire.
Reportage ici Périgord. Ce n'est pas une terre de marins, mais l'univers de l'aventurier des mers, Corto Maltese, se déploie avec avantage depuis quelques jours dans le département du Doubs. C'est la saline royale d'Arc-et-Senans qui présente cette exposition. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Que vous avez pu visiter. Ce ne sont pas uniquement des planches de BD qui sont exposées. On rentre vraiment dans le travail d'Hugo Pratt.
Oui, et c'est le plus frappant dans cette exposition. On découvre beaucoup d'aquarelles réalisées par l'auteur de bande dessinée, soit pour les prologues des albums de Corto Maltese, soit pour des ouvrages plus tardifs, des aquarelles aux couleurs éclatantes qui tranchent avec l'encre noire des planches. Michel Pierre est historien et commissaire de l'expo.
On sent qu'il avait un bonheur de ce qu'il appelait faire de l'eau sale, c'est-à-dire l'aquarelle. Avoir la liberté de pouvoir faire tout ce qu'il pouvait en aquarelle était importante. Et puis c'est tellement talentueux que nous avons pu réunir beaucoup d'aquarelles d'Hugo Pratt qui appartiennent plutôt aux dernières parties de son existence.
Et on y découvre aussi toutes les références littéraires et historiques du dessinateur, très inspiré par les livres et les objets qu'il a accumulés tout au long de sa vie, nous explique Isabelle Salé, elle aussi commissaire.
Ce sont les livres qui lui ont permis la passerelle entre le réel et l'imagination. Il est très documenté, comme on le montre dans l'expo, la collection de petites figurines des soldats font que la précision documentaire est là par l'observation et la collection.
L'expo est surtout pour les fans des aventures de Corto Maltese. Elle est donc à découvrir à la Saline Royale qui, depuis quelques années, se spécialise dans les expositions autour de la BD.
Alors, il faut y aller pour Corto Maltese. Il faut aussi y aller pour ce lieu qui est majestueux, Julien.
Oui, c'est l'occasion de découvrir ce petit bijou d'architecture du XVIIIe siècle, une usine de sel conçue comme un petit village qui a donné à son architecte Ledoux l'idée d'une ville idéale qui n'a jamais vu le jour, mais dont les maquettes qui sont exposées valent absolument le détour.
Corto Maltese à la Saline Royale d'Arc-et-Senans entre Besançon et Arbois, visible dès ce week-end. Et puis c'est un retour en chanson, celui de Florent Pagny.
Oh bon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu. Je veux t'aimer encore.
T'aimer encore, titre composé et réalisé par Vianney, sa première chanson depuis l'annonce de son cancer du poumon en 2022. Titre déclaration d'amour à sa femme et à ses proches qui l'ont soutenu face à sa maladie. Florent Pagny qui sortira son 21e album à la rentrée de septembre, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Puis, à partir de 13h30, nous parlons de ce que mangent nos enfants à l'école en ce moment, dans les cantines. Comment les transformer sans faire exploser la facture? On en parle avec nos invités et avec vous. Venez nous dire comment ça se passe pour vos enfants et petits-enfants. 01 45 24 7000. 13h45, on reste à l'école avec le concours France Inter des podcasts. On va retrouver nos élèves près de Limoges et écouter le résultat de leur travail. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Jean-Baptiste, une star du tennis là où on ne l'attendait pas.
Mais oui, qu'est venu faire Naomi Osaka au petit
petit tournoi de tennis de Saint-Malo. On va partir dans la cité corsaire pour comprendre les raisons et la portée de la présence de la star japonaise qui était encore, il y a quelques années, la sportive la mieux payée de la planète.
Et qui joue en ce moment. Et avec vous, Frédéric, une humoriste.
Elle fut longtemps humoriste sur France Inter.
Bah oui,
elle est également autrice, chanteuse, comédienne. Il s'agit de Sophie Forte. De retour sur scène ce soir à Paris et avec elle, nous écouterons une chanson de Brigitte Bardot, Une histoire de plage, chanson que Sophie Forte a eu le plaisir de chanter avec Bardot elle-même.
Plaisir pour nous de la retrouver sur l'antenne d'Inter. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Qui veut faire taire les dissidents chinois ?
France Inter, Benoît Colombat.
Ce samedi, avec le Consortium international des journalistes d'investigation, révélation sur la répression des opposants au régime chinois sur le sol français. Messagerie piratée, menaces et pression sur les familles restées en Chine, personne n'est à l'abri.
Secret d'info.
Comment la Chine traque ses opposants sur le sol français, c'est ce samedi sur France Inter, juste après le journal de 13h.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce coup de chaud précoce.
Bon, on attend encore 27 à 30 degrés sur les deux tiers nord. 27 à Nantes, à Dijon, 28 à Angoulême, Grenoble, Lille, Reims, 29 à Paris et même des pointes à 30 ou plus comme en Alsace. Il fait déjà 28 à Strasbourg à 13h ou dans l'Allier du côté de Montluçon par exemple. Il va faire plus frais près de la Manche, parfois sous des nuages bas avec 16 à 20 degrés et on attend plutôt 21 à 25 de la Méditerranée aux Pyrénées. Les températures baisseront nettement ce week-end qui s'annonce orageux, parfois très pluvieux. Elles seront encore assez élevées demain, mais dimanche, il fera déjà frisquet sur le tiers nord du pays. En attendant, le ciel reste souvent voilé aujourd'hui, un temps lumineux, mais les voiles sont parfois épaissies par des poussières de sable dans le sud et dans l'ouest. Et seules les régions au nord de la Seine, le quart nord-est, les Alpes et la Corse restent encore très largement au soleil. En Occitanie, le vent d'autan est encore fort, le vent de sud prend en vallée du Rhône, et des orages gagnent les plaines du sud-Aquitaine cette fin d'après-midi. Midi. Il s'étend en soirée dans le sud-ouest. Des orages forts localisés ne sont pas exclus.
Merci Olivier Proust, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est peu de dire que l'image des cantines scolaires est mauvaise. 50% des parents se disent insatisfaits. Un quart des enfants ne finissent pas leurs assiettes et 70% se sont déjà rabattus sur le pain. Faute de mieux, ce sont des chiffres issus d'un sondage IFOP. Confirmé par quelques questions à la maison qui valent ce qu'elles valent. Évidemment, la situation varie selon les communes, selon les chefs, mais grosso modo, on peut faire mieux, surtout compte tenu des enjeux. Éduquer nos enfants à l'alimentation et au goût. Mais comment diable leur faire manger plus de fruits et légumes ? Deux professionnels répondent à ces questions dans deux livres. Alors nous les avons invités, à commencer par Marie-Pierre Membrive. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes ingénieur en agroalimentaire. Vous venez de publier Mission cantine scolaire aux éditions Michalon. Un livre qui vous a été inspiré aussi par votre expérience de mère et votre expérience de représentante de parents d'élèves. Vous allez nous dire comment on peut faire changer le système de l'intérieur. C'est ce que vous avez réussi à faire. Avec nous également Guillaume Delso. Bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour Marie-Pierre.
Alias Guillaume le cantinier. Et là tout de suite les auditeurs se disent « Mais oui, c'est Guillaume le cantinier !» 1 million de personnes vous suivent sur vos réseaux, vous êtes cantinier dans un lycée de Bressuire, c'est dans les Deux-Sèvres, vous postez donc très régulièrement ces vidéos depuis votre cuisine, il y a les coulisses, il y a les bons plans, on va écouter cela dans quelques instants. On peut aussi vous lire dans Secrets de cantine que vous avez publié en janvier dernier aux éditions Hachette. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent être en ligne avec nous. Vous passez également via l'application France Inter. Solange est avec nous, qui nous appelle de Toulon. Bonjour Solange.
Oui, bonjour.
Vous êtes prof, Solange ?
Oui, tout à fait.
Vous avez expérimenté la cantine et vous avez des choses à nous en dire.
Oui, alors je regrette l'ancienne cantinière, hein, la dame qui faisait la cantine dans ce lycée, parce que le service a été externalisé et du coup, maintenant, nous avons des plats qui n'ont pas de goût. Et les ados se retournent vers la barquette de frites et la canette de coca. Donc je trouve ça fort dommageable. La question c'est, est-ce que l'on doit, pour des raisons de budget, diminuer la qualité ?
C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, qui fait à manger dans votre lycée ? C'est la collectivité ou bien c'est du privé ?
C'est, vous savez, les grandes sociétés privées.
D'accord, c'est du privé. Et avant, c'était une équipe locale.
Voilà, tout à fait. C'était des personnes qui faisaient la cuisine dans le lycée.
Merci pour ce témoignage, Solange. Marie-Pierre Membrive, quelle est un peu, j'allais dire, la répartition sur les écoles françaises? Qui fait quoi? Est-ce que ce sont majoritairement des plats qui sont cuisinés sur place? Est-ce que ce sont des entreprises privées qui interviennent? Est-ce que ce sont les collectivités qui ont gardé la main? Est-ce qu'on peut avoir des ordres de grandeur?
Alors, c'est très variable, mais il y a à peu près la moitié des cantines qui sont gérées en gestion directe, donc par la collectivité. Ça veut dire que pour les écoles, ce sont les mairies qui gèrent, pour les collèges, les départements, et pour les lycées, ce sont les régions. Mais il y en a encore une bonne partie qui est déléguée à des sociétés privées, soit totalement, soit en gestion mixte avec la collectivité. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement des qualités et des ressentis, des vécus très variables, mais ça ne dépend pas forcément du mode de gestion. Ça dépend surtout des cahiers des charges, du suivi qu'on va en faire, des moyens qu'on déploie, tant sur les matières premières que sur les moyens humains et puis également sur l'équipement.
Mais on ne peut pas dire, est-ce que c'est un raccourci de dire quand c'est le privé qui fait à manger, c'est plus mauvais que quand c'est la collectivité qui s'en charge?
C'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'avoir la main mise quand on est une collectivité, ça permet d'avoir un contrôle total de ce qui se passe sur la chaîne de valeur de la cantine. Et puis, avoir des cuisiniers dans les cantines, ça permet aussi de créer un lien direct avec les enfants, mais aussi avec les professeurs, madame, qui permet aussi d'ajuster les recettes, de s'adapter, on va dire, aux besoins et aux envies des enfants, tout en respectant le cadre nutritionnel et légal, bien sûr.
Guillaume Delceau, est-ce que c'est rentable pour une entreprise privée de décrocher un marché comme celui d'un lycée, lycée dans lequel vous êtes, ou bien est-ce qu'il faut vraiment proposer des produits très 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 bas de gamme et très peu chers pour gagner de l'argent?
Alors là, je suis pas dans les petits papiers des grosses entreprises privées pour des questions de budget et de bénéfices, mais il est clair que de toute façon, quand on fait appel à une entreprise privée, leur but, c'est quand même de gagner de l'argent. Et donc, plus la collectivité dans son cahier des charges est exigeante et plus elle met du budget, et plus on aura de la qualité. Mais je rejoins Marie-Pierre sur cette question, c'est que voilà, c'est très caricatural de dire que quand c'est une entreprise privée, ça va être moins bon. Voilà, dans les deux cas, il peut y avoir des cantines autogérées par les collectivités qui vont pas mettre les moyens, donc ça va pas être terrible. Et à l'opposé, des privés, des restaurations privées qui vont faire de la qualité, bien au contraire. Donc voilà, c'est vraiment, il y a tous les cas, il y a différents cas selon comment c'est géré, et il y a pas de règles en fait.
Mais je retiens, je vous redonne la parole, Guillaume, je retiens Marie-Pierre Membrive, oui, que les cantines scolaires en France sont majoritairement gérées par le public. C'est toujours le cas, oui, aujourd'hui. Le témoignage de Solange, oui, Guillaume, il oui, nous révèle quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, il y a un impact direct sur la santé des jeunes. C'est-à-dire que dès que ça se dégrade c'est un ça. Peu à la cantine, hop, ils filent dehors et ils vont au fast-food.
Oui, et puis même, alors moi, ce que je comprends pas vraiment, c'est que quand il y a une entreprise privée qui commence à gérer les affaires, ils proposent des fois des solutions de fast-food au sein de leur cantine. Donc il y a toujours un poste grillade ou un poste pizza ou un poste frites tous les jours mis à dispo pour les jeunes. Et ça, la loi ne l'interdit même pas. Et c'est vrai que c'est vraiment pas normal. Voilà, les entreprises privées dans le secteur privé, l'éducation. Privé, l'éducation nationale privée, et on se retrouve des fois avec ce genre de situation qui est assez contraire à ce qu'on pourrait penser. Et c'est vrai que voir des jeunes aller manger des frites tous les jours, c'est quand même pas normal en 2025. Donc c'est pour ça qu'avec Marie-Pierre, on essaie de sensibiliser sur ce sujet-là.
Alors, il y a plusieurs sujets, on va pas pouvoir tous les faire, mais l'une des préoccupations, oui, c'est notamment que nos jeunes mangent davantage de fruits et de légumes, Marie-Pierre Membrive. Comment faire? Est-ce que vous avez réussi dans votre école?
Alors, c'est pas simple, hein. On l'a vu d'ailleurs dans l'étude qu'on a réalisée avec l'IFOP. Ce que les enfants aiment le moins à la cantine, c'est les légumes, sans aucune surprise. Et ce qu'ils adorent, c'est les pâtes et le pain. Donc, le défi, il est multiple. Il passe par une éducation, un éveil au bien manger, à l'importance de manger des fruits et des légumes.
Donc, ça, faut en parler en classe et à la maison, c'est
exactement.
Encore mieux. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour que ça marche bien?
Eh bien, il faut que ce soit cuisiné de manière appétissante, que ce soit joyeux, que ce soit coloré, qu'on explique aussi, parce qu'il y a certains enfants qui vont découvrir certains légumes à la cantine. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc le rôle du cantinier, de la cantinière ou de l'agent de service, c'est d'expliquer pourquoi c'est bon pour la santé et d'expliquer que c'est vachement bon. Et pour que ce soit crédible, eh bien, il faut que ça le soit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cuisiniers engagés comme Guillaume, qui savent très bien cuisiner les légumes.
Et vous dites qu'il faut proposer des fruits coupés.
Ah oui, alors ça c'est un de mes combats. C'est qu'en fait, quand on est parent, on voit des menus équilibrés devant l'école, mais la réalité c'est que les enfants ne les consomment pas véritablement. Et ce qui boude, c'est les légumes et les fruits. Et notamment, les fruits comme les pommes, les poires, les oranges, quand on les sert entiers et qu'on a des couteaux émoussés qui coupent rien à la cantine, qu'on est un tout petit qui a des petites dents, qu'on est en élémentaire, qu'on n'a plus de dents ou les dents qui bougent, ou quand on est au collège et qu'on a un appareil dentaire, eh ben on les mange pas, ce
D'accord,
fruit.
Mais qui va couper et éplucher 500 pommes?
Eh bien, figurez-vous qu'il y a des cantines qui arrivent. Elles achètent des coupe-fruits professionnels qui sont hyper pratiques et elles servent ces fruits coupés. Et on se rend compte que les enfants en mangent beaucoup plus et qu'il y en a beaucoup moins qui finissent à la poubelle.
Vous faites ça, Guillaume ?
Alors, nous, on ne le fait pas encore parce que nous, on a un public de lycéens, donc ils sont un peu plus autonomes. Mais c'est vrai qu'en collège, primaire, maternelle, même pour une question de flemme, ils ont vraiment la flemme d'éplucher des légumes. Et c'est vrai que c'est
une solution
extraordinaire. Bah, un petit peu, oui, quand même. Un petit peu, oui.
Nous aussi, parfois.
Mais voilà, faut les inciter. Mmh. Et puis en faisant tout ça, on y arrive quand même. Mmh. Même en proposant des salades de fruits régulièrement, voilà, ça permet aussi de leur faire manger des fruits et les légumes, voilà, je rejoins aussi Marie-Pierre, c'est, voilà, quand on arrive à proposer un épinard avec un peu de crème, un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de muscade, et ben voilà, l'élève on va leur faire goûter et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est bon. Et le chou de Bruxelles, c'est pareil, le chou de Bruxelles, on a tendance toujours à les surcuire en restauration.
Et quand vous proposez du chou de Bruxelles, ça marche, Guillaume?
Ouais. Ah oui, ça marche. Alors, on a toujours un multi-choix, mais maintenant, ouais, le chou de Bruxelles fonctionne parce qu'on arrive à le cuisiner correctement. Et voilà, on a pris modèle sur les Anglais. Ce sont des experts en chou de Bruxelles. Mmh. Et ça marche, ouais, ça fonctionne.
Alors, on a parlé des fruits et légumes. Un autre des combats, c'est le gaspillage. Ne pas jeter des kilos et des kilos de nourriture chaque jour. Ça, c'est l'un de vos chevaux de bataille, Guillaume. Et dans vos vidéos, vous donnez des conseils. Je voudrais qu'on écoute justement celui-là.
Ce midi, il me restait de la sauce tomate basilique. Plutôt que d'ouvrir une autre boîte de concassé de tomates, on va mettre la sauce tomate basilique dans les légumes à couscous. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit !
Voilà, garder ce qui n'a pas été consommé et le réutiliser, ouais. Guillaume.
Oui, c'est du bon sens en fait. Hein. C'est juste du bon sens, c'est comme à la maison, comme faisaient nos grands-mères, comme faisaient mes parents, comme moi je fais avec mes enfants. Évidemment, en respectant les... on ne peut pas réutiliser une sauce qui a 5-6 jours à la cantine, on est d'accord. Mais voilà, une sauce qui a été servie le jour d'avant, on peut la réemployer si on a une cellule de refroidissement, on est dans le process. Donc c'est vraiment du bon sens, je dirais. Et on évite la surproduction et on essaye de sensibiliser les élèves. La communication aussi, c'est hyper important. Mais c'est vrai que le gaspillage alimentaire, il y a un tiers de la production mondiale qui part à la poubelle. Alors évidemment qu'en restauration scolaire, c'est une faible partie, mais si on y met tous d'une autre, je pense
que
ça vaut le coup. On peut progresser, ouais.
Clémence nous appelle de la Manche, c'est ça Clémence ?
Oui, bonjour, d'un petit village qui s'appelle Carole, dans le sud Manche.
Nous vous écoutons.
Alors moi, je suis maman de 3 enfants, dont 2 sont scolarisés dans la petite école de notre village. Je voulais saluer le choix ambitieux de la municipalité qui, elle, à l'inverse de ce qu'on a évoqué précédemment, a fait le choix d'internaliser en créant un emploi de cuisinier municipal il y a 4 ans pour une petite cantine qui sert à peu près 40 repas tous les jours. C'est un choix qui a été désigné comme coûteux, mais qui a des aspects positifs, enfin qui illustre toutes les bonnes pratiques que vous venez d'évoquer.
Et vos enfants, ils mangent bien ?
Mes enfants, ils mangent très bien, alors qu'ils peuvent être difficiles comme pas mal d'enfants. Il y a très très peu de gaspillage alimentaire dans cette cantine. Le cuisinier a le souci du travail bien fait et il y a des menus anti-gaspi.
Et vous interrogez sur la formation des cuisiniers, je crois ?
Tout à fait, parce que ce cuisinier a un rôle très particulier dans l'équipe pédagogique de l'école et je voulais questionner sur, dans les formations de cuisiniers, est-ce qu'on peut envisager, si ce n'est pas déjà le cas, un volet pédagogique, c'est-à-dire que comment ils sont eux-mêmes formés à éduquer nos enfants à bien manger.
Merci Clémence pour cette question que je soumets à Guillaume le cantinier. Comment sont formés nos cantiniers?
Eh ben, c'est une bonne question. Moi, je suis issu d'une formation classique de cuisinier. Et c'est vrai que dans notre cursus, on n'a pas tout cet aspect pédagogie au niveau de l'éducation, du goût, des enfants. Alors, on se forme. Évidemment, on a des formations... On a des formations qui sont proposées dans le cadre de notre métier régulière. Donc, on peut assister à ce genre de formation, mais c'est du volontariat, hein, je dirais. Mmh. C'est en fonction de chacun. Après, maintenant, il existe sûrement des formations de métiers pour la restauration collective où on aborde ces sujets. Mais quand on sait qu'il faut quand même faire goûter jusqu'à 7 fois la même chose à un enfant qui va pas trop apprécier pour commencer, voilà, il faut vraiment cette éducation au goût, oui, mériterait plus de formation auprès de nos métiers, c'est
Marie
sûr.
Pierre Mambry sur ce point.
Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Agriculture s'intéresse à la question. Il y a une enquête qui est en cours pour essayer justement de faire évoluer les formations des cuisiniers de restauration collective. Donc voilà, on va faire en sorte qu'ils prennent tout ça en compte.
Il nous reste quelques instants, Marie-Pierre Mambrive, pour parler de l'un de vos combats, c'est le cordon bleu. Il faut améliorer la qualité des cordons bleus, qui est le standard de la cantine, mais ouais, qui est définitivement de mauvaise qualité, c'est ce que vous dites.
Alors, le cordon bleu, pour moi, il incarne tout ce que l'industrie agroalimentaire dont je viens est capable de faire de pire. Mais c'est le plat préféré des enfants à la cantine. Alors, il finit pas à la poubelle, il finit dans leurs estomacs. Donc, de deux choses l'une, soit on choisit de ne plus en servir à la cantine, soit, si on le sert, il faut qu'il soit de la meilleure qualité possible. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à l'organisation d'un Grenelle du cordon bleu ou des états généraux du cordon bleu, en rassemblant toutes les parties prenantes pour qu'on se mette d'accord. S'il y a du cordon bleu à la cantine, eh ben, comment est-ce qu'il doit être formulé à partir des poulets français, sans additifs, etc. Mmh. Et qu'on le fasse et qu'on trouve les moyens de se le payer.
Sujet
qui
paraît anodin, mais qui est extrêmement important. Merci à tous les deux d'être venus nous parler des cantines scolaires. Marie-Pierre Mambrive, Mission Cantine Scolaire, c'est aux éditions Michelon, Guillaume Delson, Secret de Cantine, c'est chez Hachette. Et puis je vous recommande évidemment les vidéos, 13h46 sur Inter. Restons à l'école, nous y sommes bien. Une semaine dans la vie d'une classe qui se lance dans le podcast. Comme plus de 500 classes de France, celles de CM2 de l'école Jean Rostand de Condat-sur-Vienne, près de Limoges, participent au concours lancé par France Inter intitulé « L'école des Odyssées ». Avec l'aide de leur maîtresse Soisy Queberlé, les élèves y racontent l'histoire de Louis Braille. Hier, on les a entendus enregistrer. Aujourd'hui, dernier épisode, nous écoutons le résultat.
Bonjour, nous sommes la classe de CM1 CM2
de Condat-sur-Vienne.
Nous avons participé à votre projet pour faire un podcast.
Messieurs, mesdames, attachez vos ceintures. Nous allons vous présenter notre odyssée. Mais attendez un petit peu. Avant, nous allons vous présenter Louis Braille et pourquoi nous l'avons choisi. D'ailleurs, savez-vous qui est Louis Braille? Minute, papillon, vous allez le découvrir.
Entendez-vous ce bébé qui braille? Nous sommes au début du 19e siècle. Un enfant vient de naître. C'est Louis Braille. Son nom vous dit quelque chose? Il va devenir un grand inventeur pour aveugles. Que pensez-vous qu'il a inventé? Des lunettes de soleil?
Non.
Une canne blanche?
Toujours pas.
Des jumelles?
Non plus.
Non. Il a inventé quelque chose de bien plus important pour tous les aveugles. L'écriture braille. Une écriture utilisée dans le monde entier. On peut la retrouver au quotidien sur des boîtes de médicaments, des boutons d'ascenseur, des toilettes publiques, dans des livres, et j'en oublie. Même en étant aveugle, il n'a pas eu froid aux yeux.
C'est merveilleux, non? Grâce à Louis Braille, même les non-voyants peuvent lire et écrire. Et il a fait prendre conscience aux handicapés que ce sont des personnes merveilleuses malgré leur handicap. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter et j'espère que notre odyssée vous plaira.
Je suis très, 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 très fière de vous. Franchement, bravo. Hein. C'est fou, j'en suis toute émue. On a vécu une après-midi d'enregistrement assez exceptionnelle. Enfin, c'était un très bon moment de classe. Et moi, que j'appelle des petits moments de magie, des petits moments de grâce un peu dans notre métier, en fait, où en proposant des projets comme ça différents aux enfants, bah, on arrive à passer un bon moment et en même temps, on apprend plein de choses.
Moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça nous fixait un objectif un petit peu dans la classe. Au début de l'année, on était comme des inconnus chacun et là, eh ben, on se connaît très bien. Avant, je connaissais à peine Toto et là, c'est ma meilleure amie. Alors,
C'est qui Toto ?
C'est Victoria.
Alors toi, Victoria, qu'est-ce que t'en as pensé de ce projet ?
Ça nous a beaucoup renforcé parce qu'avec les CM1, on ne les connaissait pas, etc.
Je pense qu'il y a des enfants qui, au début de l'année, justement, avec quelques difficultés dans les relations aux autres, un enfant extrêmement timide, par exemple, qui, là, a pu travailler avec les autres et a pu donner son avis, a pu donner des idées, alors que c'est un enfant qui, d'habitude, ne s'exprime pas trop. Je crois que ça a fait avancer tout le monde, en fait. Pour moi, c'est un projet hyper fédérateur. C'est-à-dire que ça a vraiment créé le groupe classe.
Qu'est-ce que tu as appris, toi, par exemple ?
Que Louis Braille existait et que c'était lui qui avait inventé l'écriture Braille. Parce que j'avais déjà vu sur des boîtes de médicaments, des points, etc. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je le sais.
Et bien, du coup, voyant l'enthousiasme et l'engagement des enfants, eh bien, je leur ai proposé d'aller à Paris pour visiter alors, le Louvre, la Tour Eiffel, et puis faire un atelier à la Maison de la Radio.
Donc ça, c'est le projet de fin d'année.
Voilà. Partir en classe de découverte, ça demande du temps, de l'investissement, mais c'est chouette de vivre ça avec les enfants en fait.
Et nous les accueillerons ici avec grand plaisir. Résultat de ce concours, l'école des Odyssées, le mardi 13 mai. Sonia Princé pour la réalisation de ce feuilleton.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, la France du sport, avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Alors ça, c'est une drôle d'histoire. Les cours de tennis de Saint-Malo accueillent en ce moment une star planétaire.
Oui, et le mot n'est pas trop fort pour décrire celle qui était jusqu'en 2022 la sportive la mieux payée du monde avec 50 millions de dollars de gains annuels, celle qui compte encore 2 800 000 followers sur Instagram, celle qui fut numéro 1 mondial de sa discipline et remporta notamment 4 tournoi du Grand Chelem, Naomi Osaka, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et l'attraction inattendue du petit tournoi breton qui n'avait jamais accueilli de joueuse de cette envergure. Il faut dire que l'épreuve, un WTA 125, se situe en bas dans la hiérarchie des tournois du circuit professionnel. Un seul chiffre pour s'en rendre compte, la victoire rapporte 13 000 euros dans la cité corsaire, quand un succès à Roland-Garros permettra à la lauréate d'empocher 2,5 millions d'euros. Les spectateurs se frottent encore les yeux parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut côtoyer d'aussi près et pour moins de 10 euros une sportive de ce calibre qui n'avait plus disputé un aussi petit tournoi depuis 2015. Mais le tournoi de Saint-Malo a profité de deux choses. L'élimination précoce de Naomi Osaka au tournoi de Madrid la semaine dernière et une place enviable dans le calendrier. Alors quand la japonaise a été sortie de l'épreuve espagnole, son agent a envoyé un mail aux organisateurs bretons pour leur demander une place dans le tableau, parce qu'à 3 semaines de Roland-Garros, Osaka a besoin d'accumuler les matchs sur terre battue.
Et il n'était pas question pour ses organisateurs de lui refuser une invitation.
Évidemment non, vous imaginez bien l'effet que peut avoir sa présence sur la médiatisation et la billetterie de l'épreuve. Et en plus, la jeune femme n'a exigé aucune condition particulière, pas fait de caprice de star. La voilà donc immergée dans une épreuve où le public est plus près, moins tenu à distance par les cordons de sécurité. On devine pourtant que Naomi Osaka est aussi venue chercher à Saint-Malo une certaine tranquillité. Aujourd'hui âgée de 27 ans et retombée à la 55e place mondiale, après une pause d'un an et demi pour donner naissance à son premier enfant, elle est bien sûr en quête de victoire et de certitude, mais peu après son arrivée à Saint-Malo, elle disait simplement son bonheur d'être allée marcher au bord de l'océan et d'avoir vécu un moment très paisible, ce qui, dans sa bouche, ne peut pas être tout à fait anodin.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on n'a pas oublié d'où revient Naomi Osaka, l'une des toutes premières sportives à avoir parlé publiquement de ses phases de dépression et à avoir alerté sur la santé mentale des athlètes de haut niveau. Souvenons-nous qu'en 2021, à Roland-Garros, elle avait commencé par boycotter les conférences de presse parce qu'elle n'avait plus la force d'affronter les rafales de questions d'après-match. Quelques jours plus tard, elle quittait le Grand Chelem parisien juste avant de jouer son deuxième tour, ce qui avait été une déflagration à l'époque. Déjà très engagée contre les violences policières subies par les Noirs aux États-Unis, cette fille d'un père haïtien continue d'utiliser sa surface médiatique pour sensibiliser à cette question de la santé mentale, ce qui explique d'ailleurs son rayonnement en dehors du monde du sport. Aujourd'hui encore, elle avoue lutter contre le stress et l'anxiété. C'est aussi cela qu'elle doit surmonter sur le chemin du retour au plus haut niveau.
Surmonter également sur les courts, puisque Naomi Osaka est en ce moment même opposée en quart de finale dans ce tournoi de Saint-Malo à la française Elsa Jacquemot. Merci Jean-Baptiste René. Du journal L'Équipe 2, c'est la France, ah, c'est une chanson. C'est avec une vieille connaissance, Sophie Forte, que vous parlez chanson aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Sophie Forte, humoriste, chanteuse, autrice, comédienne, elle sera à partir de ce soir sur la scène du théâtre Essaillon à Paris dans La Valise, spectacle tiré d'un roman qu'elle a écrit sur son histoire familiale. Et c'est Brigitte Bardot qu'elle a souhaité que l'on écoute avec la chanson Une histoire de plage.
Je la découvre quand j'ai une quinzaine d'années. J'écoutais les albums qu'avait enregistré Brigitte Bardot. J'adorais. Et je découvre un auteur qui s'appelle Jean-Max Rivière et qui écrivait de façon tout à fait poétique et humoristique des choses charmantes. Et donc, je me dis, tiens, ça m'irait bien, ce genre de chanson. J'aimerais un jour les chanter. Et puis, entre-temps, je fais plein d'autres choses. Mais quand j'arrive à Paris, j'ai 23 ans. Et je monte un petit tour de chant a cappella pour gagner un peu de sous en même temps que je fais les cours Simon. Et je vais chanter dans des restaurants, dans des bars. Voilà. Et je choisis des chansons de Jean-Max Rivière, dont celle-ci, Une histoire de plage. Mais je chante aussi la fameuse Madrague. Coquillages et crustacés, tout ça, c'est lui. C'est lui.
Il n'est pas très connu, Jean-Max Rivière, alors qu'il a composé de grands succès.
De grands succès. Il a travaillé longtemps à la SACEM aussi. Et puis un jour, je rencontre dans un restaurant une dame qui me dit « Oh, mais je connais très bien Jean-Max Rivière, vous savez, c'est rare d'entendre quelqu'un qui chante ses chansons, vous devriez le rencontrer. Et tenez, voici mon numéro, et puis si vous voulez, vous m'appelez, j'organiserai une rencontre. » Et puis bon, bah moi j'ose pas, se passe plusieurs mois, et finalement je retombe sur le numéro de téléphone et je me dis « Allez, appelle cette dame !» Alors je l'appelle et elle me dit « Ça alors, j'ai pas vu Jean-Max depuis 6 mois et je dîne avec lui ce soir !» C'est quand même énorme. Il faut venir. Alors je viens, et c'était dans un restaurant. Voilà, il y avait sa fille, Prunella, qui est adolescente à l'époque, sa femme, Francine, et Jean-Max Rivière, tout à fait charmant, bel homme, avec moustache, beaucoup de charisme. Il me dit « Alors, c'est toi qui chantes mes chansons ?» Je dis « Oh oui, monsieur !» Il me dit « Oh, ben on n'a qu'à chanter !» Et là, il avait sa guitare, il sort sa guitare. Et en fin de soirée, nous voilà en train de chanter des chansons. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré, parce que grâce à lui, je suis rentrée dans des cabarets, et j'ai commencé à gagner ma vie comme chanteuse.
Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau, dans un coquillage la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille.
C'est en 1964 qu'est sortie cette balade, Frédéric.
La musique est de Gérard Bourgeois, les paroles de Jean-Max Rivière. Et cette chanson agit comme un ouvre-boîte à souvenirs pour Sophie Forte.
Mes parents avaient une maison sur une plage. Et cette maison, j'y suis allée pendant très longtemps. Ils l'ont malheureusement vendue. Bon, j'en suis encore très triste. Et je me souviens que bah, y avait une plage que j'adorais, où j'allais tout le temps et je chantais, je fredonnais cette petite chanson. Et pour moi, bah, c'est les vacances, c'est l'été, c'est l'enfance, l'adolescence, la joie, la légèreté, le bonheur, l'amour aussi, les premiers émois. Tout ça, quoi.
C'était à quel endroit, cette plage ?
C'était ailleurs, à côté d'hier, au Salin d'hier, plus exactement. Donc en fait, moi, quand j'écoute une histoire de plage, je vois des paysages, j'entends la mer, je vois les bateaux, tout ça.
Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble, espérant que l'amour serait au large.
Oui, il vous est arrivé de dire ce genre de phrase. Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble.
Ah là là, bah écoutez, si je trouve un amoureux bientôt, je crois que je lui dirai. Avis aux amateurs, si vous voulez entendre ces mots, appelez-moi.
Il n'y a pas d'amoureux en ce moment ?
Non, il n'y en a pas. J'ai un chat et deux filles, c'est bien ? Alors figurez-vous que je l'ai rencontré, Bardot, parce que un jour, Jean-Max me dit « Pour le réveillon du nouvel an, tu viens chez des amis en banlieue, bref, tu prends un taxi, tu viens. » Alors je prends le taxi, je trouve cette maison, et là, je sonne, et là, Brigitte Bardot m'ouvre la porte. Alors je dis « Waouh ! Je le crois pas, c'est vous !» Alors elle me dit « Oui !» Bon, alors on fait un dîner tout à fait sympa, on picole un peu. Et Bardot commence à chanter et elle me dit « Bon alors Sophie, on fait des duos !» Et donc je me mets à chanter les chansons avec elle. N'est-ce pas charmant ? Une
histoire de plage. Et vous avez chanté celle-ci ?
Et nous avons chanté cette chanson. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil.
Brigitte Bardot, une histoire de plage. C'était donc, Frédéric, le choix de Sophie Forte.
Sophie Forte que vous pouvez retrouver au théâtre Essaillon à Paris dans son spectacle La Valise.
Merci Frédéric et à lundi. Quelques remerciements sur quelques notes. À la technique cette semaine, merci à Arnaud Caillé et Ludovic Asselot. À la rédaction en chef, Estelle Schmitt, Sébastien Sabiron et Cécilia Arbona, assistée de Carline Desrosiers, Swad Bellani, Nicolas Sabat et Sylvain Lesage. Sans oublier notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Qui est votre invité aujourd'hui ?
Eh bien, un réalisateur césarisé, Gilles Perret, dans un instant.
À tout de suite.